Ah, quand tu veux.
Salut à tous, bienvenue sur le Processus Talk. Aujourd'hui, on va vous parler de l'échauffement, comment le réaliser, qu'est-ce que tu peux introduire dans ton échauffement pour qu'il soit productif et pas que ce soit juste brasser de l'air. Nathan, est-ce que tu t'échauffes?
faut pas demander ça. Non, ok, des fois, c'est vrai que... C'est vrai, tu vois, quand je veux que ça aille vite, j'ai pas trop le temps de m'entraîner. Des fois, je cut un petit peu l'échauffement. Mais ça dépend ce que je fais. Par exemple, si c'est sur une séance sprint, là, je vais pas faire le con et je vais quand même m'échauffer.
Ok.
Ou alors, je vais pas faire de sprint si jamais j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais ça dépend des efforts que je vais faire.
Oui, donc...
Typiquement, sur du sprint, je vais toujours m'échauffer parce que j'ai pas envie de me faire un ischio. Mais des fois, c'est vrai que je fais une petite entorse et puis voilà, j'attaque direct. Généralement, même si j'attaque direct, j'essaie quand même de faire cette la montée en charge.
Ok.
Tu sais, de quand même... imaginons, je fais pas mal de traction lestée.
Attends, reste sur le sprint. Non, mais juste pour rester sur le sprint, pour voir si justement, est-ce que ton échauffement, il est différent si tu fais du sprint, des tractions, de la préparation physique, la spécificité de ton sport, enfin voilà. Là, tu dis sur le sprint, enfin, c'est pas ton sport, c'est vraiment de la préparation physique, on est d'accord?
Ouais.
Tu fais pas de l'athlétisme en club. Comment tu t'échauffes? Enfin, tu dis, j'aimerais être prêt, ok, mais tu fais quoi dans la montée en charge?
Ok, tu veux que je te détaille toutes les étapes?
Non, pas forcément toutes les étapes, mais savoir si tu fais un peu de l'articulaire, si tu fais pas d'articulaire.
Oui, donc que je détaille toutes les étapes.
Non, ouais, mais okay. Ouais, tu détailles les différentes étapes, enfin, tu dis les différentes étapes sans forcément trop les détailler. Qu'est-ce que
en gros, tu fais dedans? Je fais toujours du travail articulaire, donc ce qu'on appelle les rotations articulaires contrôlées, les curls. Donc je commence toujours par ça.
D'accord.
Au niveau des articulations principale que je vais utiliser.
Ouais, voilà.
Et puis des fois, si j'ai des certaines articulations qui me gênent un peu ou j'ai des petites douleurs, je vais aussi les mettre en mouvement. Typiquement, si je fais des tractions, je vais faire les épaules.
Ok.
Parce que c'est le.
Ouais.
C'est l'articulation principale. Mais tu sais, depuis ma fracture au coude, bah des fois j'ai des petites gênes. Des fois, je sens que mon coude il est un petit peu raide entre guillemets. Donc juste faire ces rotations là. Ça va me permettre de mettre un peu de mouvement et d'être plus à l'aise après sur mon mouvement de traction.
Ouais, donc en gros, tu fais des rotations articulaires contrôlées sur les articulations que tu vas solliciter. Enfin, si tu fais du sprint, tu ne vas pas forcément faire au niveau cervical.
Non, c'est ça, mais... Ouais, non, exactement.
Okay.
Exactement. Sur le sprint, je vais plutôt faire hanche, genou et puis même pas la cheville. En vrai, ça ferait sens.
Ça ferait sens, ouais.
Ça ferait sens.
Même au niveau du pied, ça ferait sens.
Ça ferait sens, absolument. Mais voilà. Okay. Donc des articulations principales.
Et juste au niveau de l'intensité, tu vas fort direct, tu fais vraiment au départ une sorte de routine ou tu le fais vraiment en mode échauffement?
Alors j'aime bien faire deux séries de cars que je fais entre 50 et 70% d'intensité. Ok, c'est de l'intensité subjective, mais...
Ouais.
Mais ouais, en gros, je mets 50 à 70% de ce que je peux faire.
CARS, c'est en français RAC, rotation articulaire contrôlée. Même s'il a déjà dit, je répète, on sait jamais. Okay.
Exactement.
Ok, donc 50-70% d'intensité subjective. Et au niveau de l'amplitude, est-ce que...
Moi, je vais direct sur mes amplitudes.
Ok, tu vas direct sur la fin d'amplitude.
Je vais direct.
Et tu cibles pas forcément une partie spécifique. Par exemple, moi je sais que si je vais faire un peu du squat, il y a pas mal de rotations internes, je vais faire des racks un peu plus ciblés sur la rotation interne, tu vois, ou alors je vais mettre plus l'accent sur la rotation interne. Est-ce que ça t'arrive de faire ça, ou vraiment quand tu fais tes racks t'essayes que ce soit très 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 général?
Non, le but pour moi c'est d'être très très général. Après, sur la deuxième phase, donc je vais être un peu plus spécifique. Ce que je vais faire, c'est que au niveau, encore une fois, de mon articulation principale, je vais me mettre sur ma fin d'amplitude.
Okay.
Et puis je vais faire des contractions maximales isométriques, un coup dans le sens opposé à l'étirement.
D'accord.
Et ensuite un coup dans le sens opposé, enfin dans le sens de l'étirement, pardon. Ouais, dans le sens de l'étirement.
Okay.
Comme si je voulais en gros me tirer encore plus loin dans l'étirement.
Okay.
Donc en gros, je fais ça, mais ça c'est court, hein. C'est une série de 5 secondes. Je sais pas, ouais, peut-être 5 secondes. Je fais ça du coup des deux côtés, admettons le sprint, une fois à droite, une fois à gauche.
Okay.
Quoique le sprint, je pourrais même le faire sur deux amplitudes différentes. Je le ferais peut-être. Enfin, c'est pas je le fais peut-être, c'est je le fais. Je le fais. Dans un premier temps, avec la hanche en flexion max.
D'accord.
Ok. Ouais. Donc je vais forcer dans un premier temps. Je me mets par exemple sur un support, une chaise. Je vais forcer comme si je voulais enfoncer mon pied dans la chaise. Et ensuite, je vais forcer comme si je voulais le décoller.
Ok, mais on est d'accord que quand tu forces, comme si tu voulais enfoncer ton pied dans la chaise, c'est en isométrie, donc il n'y a pas de mouvement.
Non, il n'y a pas de mouvement.
Tu te tiens avec quelque chose pour pas te redresser. Ouais. Ok. Et ensuite, tu contractes les fléchisseurs de hanche pour aller encore plus loin dans la flexion et tirer du coup les extenseurs de hanche, la partie extérieure.
Exactement. Okay. Donc je le ferai dans ce sens-là, vu qu'il y a quand même un gros travail des fléchisseurs de hanche sur le sprint, quand je viens ramener ma jambe vers l'avant.
À très haute vitesse en plus.
Et puis je le ferai aussi avec, cette fois-ci, la hanche complètement en extension. Et je ferai la même chose. Je forcerai d'abord pour ravancer mon genou, comme si je voulais faire une flexion de hanche.
En position d'extension.
Exactement. Okay. Et ensuite, comme si je voulais, je vais contracter fort au niveau fessier ischio, pour aller encore plus loin dans mon extension des hanches.
Ok, très bien. Et au niveau de l'intensité, pareil que les racks, 50-70%?
Là, non, là, je me mets à 90%, 100%.
Ok, quasiment un bloc.
Direct.
Ouais, quasiment un bloc.
Parce que c'est une fois et c'est 5 secondes.
Ouais.
L'idée, c'est d'avoir un petit peu ce phénomène de potentiation.
Ouais, totalement.
Plutôt à un niveau profond, à un niveau presque, enfin ouais, dans l'articulation.
Okay.
La potentiation, en fait, c'est le, comment dire, en fait, c'est le fait de venir booster un peu ton système nerveux. Donc tu vas lui dire, tu vas le faire forcer au max pour que quand tu vas faire ton effort, au final il soit déjà excité à un haut niveau, et donc que tu sois prêt en fait à en découdre direct, quoi.
Ouais, et puis des fois, on a déjà tous ressenti ça. Des fois, de faire un effort maximal, très 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 fort, et puis de retourner sur un effort un petit peu plus simple, on a l'impression que c'est encore plus simple que si on le faisait sans avoir fait l'effort maximal dessous, parce que ton système nerveux, du coup, est boosté et que tu t'es habitué à quelque chose de très 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 difficile.
Ça se voit beaucoup, ça, la potentiation dans les sports co, par exemple rugby, foot, ou avant... En fait, fin d'échauffement, avant de rentrer sur le terrain, ils vont faire, j'en sais rien, une 1 ou 2 RM, peut-être 3 RM, en back squat par exemple. Parce que comme ça, ils ont boosté, ils ont activé, excité à fond leur système nerveux. Et donc le fait de rentrer sur le terrain tout de suite après fait qu'ils sont gonflés à bloc direct. Et ce qu'ils ont fait, c'était tellement court que ça n'a pas eu le temps de générer de la fatigue.
Ouais, il n'est pas en train de dire qu'il faut faire 2 RM back squat à chaque fois que tu t'entraînes, hein, mais... Non, mais on ne sait jamais.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc là, on a pris l'exemple du sprint, mais du coup, vu qu'on a fait que la partie articulaire, on est d'accord que ça fonctionne pour tout ce que tu fais, que tu ailles faire de la course à pied lambda, que tu ailles faire du trail, que tu ailles faire du vélo, que tu ailles faire de la préparation physique sur du squat, du deadlift, que tu ailles faire des tractions. Fais-toi du travail articulaire à moyenne / basse intensité pour recruter toute l'amplitude et chauffer ton articulation, d'accord ? En gros, on va mettre du liquide dans les articulations, ce qui leur permet d'être en meilleur, de mieux fonctionner directement.
Un petit peu de WD-40.
Ouais, voilà. Mais en gros, ça nous permet de tout de suite être prêt au niveau de l'articulation, et ça sur tous les mouvements. Donc fais-le intelligemment. Si tu fais du haut du corps, travaille peut-être sur tes poignets, tes coudes, tes épaules, peut-être tes omoplates et peut-être la partie thoracique. Encore faut-il connaître les rotations articulaires
de toutes les articulations,
les exécuter correctement. On est là pour ça, si vous avez besoin d'aide. Je pense honnêtement que si tu tapes sur YouTube rack avec l'articulation que tu veux derrière, ou CARS, t'auras...
CARS, c'est sûr.
Tu arriveras à les trouver. Donc là, on va se dire, Nathan, quand même, on l'a fait à un point de vue articulaire sur l'amplitude. Ensuite, tu l'as fait d'un point de vue potentiation, mais toujours d'un point de vue articulaire, comme tu l'as dit, sur les tissus les plus profonds. Et là, les gens, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est quand même, c'est en mode, oui, mais je suis d'accord, je suis prêt au niveau de l'articulaire, et maintenant, je fais ma série de back squat à 80% direct, ou je pars sur ma première série de squat.
Là, j'ai détaillé que deux étapes.
Ok, qu'est-ce que tu fais ensuite?
Ok, ensuite, je vais...
Parce que jusque-là, juste pour dire aux gens, moi, je fais exactement pareil, je m'échauffe au niveau articulaire. En général, moi, je fais deux articulations, pour pas que ça me prenne non plus 20 minutes à faire des racks, quoi.
Alors, ce que je fais, c'est que sur les cars, je fais les articulations principales, et puis les articulations, comme j'ai dit, un peu secondaires, où je peux avoir des gènes, tout ça. Après, sur la deuxième partie, où je viens forcer dans mes amplitudes max...
Tu fais vraiment du spécifique, quoi.
J'essaye. Je le fais pas dans toutes les positions.
Ouais.
Sur le sprint, je trouve que ça fait sens de le faire et en flexion et en extension des hanches. Mais si, par exemple, sur du... un pattern de poussée, tu vois, je fais pas mal de handstand push-up, là, je vais le faire uniquement en étant au plus bas dans ma phase de poussée, ok?
Ouais.
Je vais pas le faire une fois que je suis tout en haut, ça a pas de sens. Je vais le faire dans la position... En fait, je vais le faire dans les positions qui sont importantes ou dans les positions où je suis le plus faible.
Ouais.
Moi, c'est plutôt comme ça que je raisonne. Troisième, du coup, phase, c'est le priming. En gros, ce que je vais faire... c'est que je vais chercher à, encore une fois, c'est un peu de la potentiation, c'est que je vais chercher à recruter un max de tissu.
Ok.
Un max de tissu.
Par exemple, tu veux plus cibler que la capsule articulaire ou que l'articulation en elle-même.
Là, je suis parti dans
essayer de partir sur tous les tissus conjonctifs.
Et puis même sur le muscle, en fait.
Élargir le spectre.
Ouais, je suis plus sur le superficiel quand je fais ça. Donc,
typiquement,
ce que j'aime bien faire quand je fais mes tractions, c'est... Là où je suis le plus faible, moi personnellement, ça va être tout en haut de ma traction. Okay,
okay.
Donc quand j'ai le coude bas, je vais venir prendre un élastique, je vais tenir cet élastique en isométrie et d'ici, en fait, je vais balayer tout le spectre de ma rotation externe et interne.
Okay.
Et ça, c'est pareil, c'est court, je fais peut-être 3 allers-retours, mais c'est 3 allers-retours à bloc où je suis à 90 voire 100% de
sur la partie faible.
Ouais, exactement.
Okay.
Des fois, je le fais uniquement sur la partie basse. Des fois, c'est vrai que je le fais aussi sur le quand j'ai le dos en étirement. Okay.
Ouais.
Donc quand j'ai la main haute, pareil, 3 allers-retours où je viens balayer ce spectre de rotation.
Et tu le fais sur un spectre du coup. Tu le fais pas en isométrie qu'à un seul endroit.
En fait, c'est ce qu'on appelle de l'isométrie dynamique zonale. Ça veut dire que je viens isoler une fonction de mon articulation. Je la tiens en isométrie. Donc là, typiquement, quand je suis en bas, je viens tenir ma position en isométrie, ce tirage, okay. Mais je garde cette position d'isométrie, mais j'ai quand même du dynamique parce que je viens faire cette rotation externe et interne au niveau de l'épaule, tout en tenant ce coude bas, donc cette isométrie.
Okay.
Donc là, ma troisième phase, en gros, c'est ça, c'est l'isométrie dynamique zonale, où je veux que la partie isométrique soit à intensité quasi max, quoi. 90%, 100%.
Et encore une fois, c'est quand même subjectif, sauf que là, tu peux ajouter un peu de charge. Donc, c'est un petit peu moins subjectif même. Et au niveau du sprint, ça, tu le fais comment, par exemple? Parce que là, sur la traction, ça parle bien. Tu tires, tu te mets dans ta position faible. Tu ouvres sur ta zone. Sur du sprint, tu vas me faire quoi?
Sur du sprint, ça va dépendre où tu veux cibler les tissus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est cibler les tissus, on va dire, postérieurs, donc les ischios, plutôt au niveau du genou.
Ok.
Vu que j'ai des antécédents au niveau du genou.
Ouais, en fait, tu fais par rapport à tes antécédents.
Ouais, mes antécédents.
Tu te rends en compte
Par rapport à ce que je vais travailler et en effet, mes antécédents. Donc, comme tu l'as dit, je me prends en compte.
Ouais, ouais.
Mais par exemple, je le fais faire aussi avec les athlètes que j'accompagne en MMA. C'est je vais venir accrocher un élastique bas au sol.
Ok.
Ok, je viens le passer derrière ma cheville.
D'accord.
Et puis en fait, je vais aller m'asseoir en reculant le plus loin possible. Donc je recule, j'ai placé un banc sur lequel je vais m'asseoir, je mets la tension max.
Et après tu fais...
Okay. Je mets la tension max dans mon élastique, donc ce qui fait que je dois tenir cette position en isométrie avec mes ischios pour pas que ma jambe vienne se tendre. Et d'ici, je vais faire mes rotations internes et externes du tibia.
Okay.
Donc même chose, isométrie dynamique zonale.
Ok.
Et tu pourrais l'imaginer...
De plein de manières différentes.
Sur toutes les articulations...
Je pense certaines... que si tu tapes sur internet, par contre, tu trouves pas forcément.
Ça tu trouves pas.
Faut être un petit peu imaginatif.
Du coup, t'es obligé de venir nous voir. Non, mais il y a des articulations où c'est un peu plus tricky, un peu plus compliqué. Typiquement, la hanche, c'est...
Ouais, il faut être inventif en fait.
Il faut être créatif.
Il faut être créatif et faut aussi il faut se prendre en compte soi-même. Donc c'est pour ça que les échauffements qui sont préfaits pour tout le monde,
ça marche pas.
Ça marche pas vraiment, il ça faut se prendre pas. En compte si tu sais qu'en ce moment tu as mal au genou et que dans ton échauffement préfet, bah il y a pas d'échauffement de ton genou, peut-être que tu fais une erreur, peut-être que tu fais une erreur.
Au final là, ce que je suis en train de donner, c'est pas une recette toute faite, c'est un template.
Ouais.
Et en fait, toi tu peux reprendre ce template et remplacer les blocs pour que ce soit spécifique à toi, à ta pratique, etc.
Et à ta séance aussi, est-ce que tu vas faire dans la séance, parce qu'une séance sur du squat, une séance sur du deadlift, enfin plutôt axée sur du squat ou plutôt axée sur du deadlift, ça va pas être le même échauffement aussi. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que là il y a un travail articulaire, vraiment des tissus profonds et de l'amplitude à une basse intensité, puis de la potentiation articulaire, puis du travail général.
Ouais.
Ok, donc là on a nos trois phases. Pour le moment, on est toujours en accord.
Ouais, c'est
ensuite,
ça.
Ouais, moi je fais quasiment pareil. Je fais un peu moins de dynamique, d'isométrie dynamique zonale là. Je fais un peu plus du yielding ou de l'overcoming en fait.
Ok, alors l'overcoming j'en fais à la fin.
Ok, et bah du coup, bah moi des fois je le place par ici tout de suite. Je le fais en fin d'amplitude ou en. Enfin, pas forcément que de l'overcoming. Hein. Je peux faire aussi du yielding. Donc, isométrie yielding, c'est résister pour ne pas tomber. Imaginons que tu te mets en haut de ta traction et tu veux tenir un petit bout de temps pour éviter un maximum de temps pour jusqu'à quand tu tends les bras parce que tu n'as plus de force pour te maintenir.
Ouais, le yielding, en fait, c'est que à force de tenir ta position en isométrie, tu vas avoir de la fatigue qui s'accumule.
Voilà, exactement.
Et en fait, bah, la résistance te contraint à céder. Donc toi, tu gardes cette intensité de vouloir, comme tu l'as dit, rester par exemple très haut de ma traction.
Ouais.
Mais la fatigue me fait céder. Mais pour autant, je garde cette intention de vouloir rester très haut. Et je suis contraint de céder parce que c'est trop intense, parce que je fatigue, etc.
Et au niveau de l'overcoming, on l'a déjà dit dans un précédent podcast, mais c'est forcer très très fort contre quelque chose que tu ne peux pas bouger.
Contre une résistance. Au final, voilà. Tu pourrais faire de l'isométrie sur un pattern de pousser au niveau des bras contre un mur.
Ouais,
cherche un à mur. Pousser le plus fort possible contre le mur.
Voilà, exactement. Voilà. Et là, tu peux t'échauffer comme ça. Donc ça, en fonction du temps que tu le fais, ça peut être de la potentiation. Si tu le fais très très court à très très haute intensité sur de l'overcoming, ça peut être de la potentiation.
C'est de la potentiation, ouais.
Et si tu le fais pendant très très longtemps...
Qui est un gros temps sous tension,
voilà,
en fait.
Voilà, un temps sous tension et une intensité, du coup, obligatoirement un petit peu plus faible, ça peut être aussi un échauffement un peu plus global que articulaire.
Moi, je pensais même que tu allais dire ça peut être un entraînement.
Ah oui, ça peut être, parce que, ça peut parce être que, un entraînement.
Parce que si tu fais ton isométrie overcoming pendant 30 secondes à 70-80%, bah, tu crées des adaptations.
Ouais.
Tu crées des adaptations. Donc là, c'est même plus un échauffement.
Ok.
Donc là, j'ai donné mes trois premières étapes. La quatrième, je ne la fais pas toujours. La quatrième, c'est, en gros, je vais simplement chercher à augmenter la température de mon corps.
Ok.
Ok, donc ça peut... Ça,
super intéressant, ça.
Ça peut être ultra simple. Tu te mets sur un vélo, tu pédales. Ça peut être... Tu te mets sur un tapis de course, tu cours. Quand je fais, par exemple, bah, des séances instant push-up, vu que je me prépare à pousser, eh ben, je vais faire, par exemple, des burpees.
Ok.
Ok, ça dure aller... 2-3 minutes, ok, je fais pas 2-3 minutes de burpees,
oui.
Ou alors si, mais je les fais à un rythme qui sont assez lents. Le but c'est pas de m'éclater, c'est juste de faire monter ma température
moi
corporelle.
Moi aussi je le fais ça. Enfin, ce que tu dis, augmenter la température corporelle, et j'aime bien dire, et du coup là ça te rejoint de fou sur tout ce que tu viens de dire, j'aime bien dire qu'en fait le but c'est de bouger, mais vraiment
c'est
de
ça.
Bouger, j'aime
tu peux faire
beaucoup
n'importe quoi.
Voilà, exactement, c'est vraiment... Enfin, dans la limite du raisonnable.
Non, mais c'est ça. Mais quatrième étape, c'est bouger.
C'est fait n'importe quoi. Et des fois, ça dépend en fonction de qu'est-ce que je vais faire comme séance. Mais des fois, cette quatrième étape, bah, moi, je la place au tout départ, en première étape. Pendant 5 minutes, bah, au lieu de faire 5 minutes de vélo, comme tu l'as dit, bah, je fais 5 minutes de marche des animaux. Si c'est un entraînement qui va être global, t'essayes de varier
tout ça.
Marche
des animaux.
Ouais. Enfin, les différentes marches des animaux. T'as jamais fait ça?
Ouais, le... Si. Ouais, si,
Animal Flow.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et bah ça, je trouve que c'est super intéressant, ça permet d'apporter de la variabilité, et pour l'avoir déjà fait en coaching...
Ça marche bien.
Ouais, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont zéro motricité, quoi. Tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte
bah,
que...
C'est bien, ça te permet d'échauffer ta motricité.
Ah oui, vraiment.
En plus de ça.
Non, mais et c'est dingue. Donc là, encore une fois, sur cette étape, monter le corps en température, on pourrait appeler ça faire n'importe quoi, bon, dans la limite
du raisonnable,
mais c'est bouger. Vraiment bouger. Il faut que tu aies un ressenti d'être passé de quelque chose où tu n'es pas très très chaud à une température corporelle qui te permet de rester dans un environnement entre guillemets un peu froid sans ressentir le froid. Bon, pendant peut-être pas indéfiniment, mais voilà. En fait, si on veut faire un truc simple, tu es dans un environnement où il fait froid, tu bouges pour te réchauffer.
Ouais, c'est ça. Moi, bah du coup, typiquement, tu vois, c'est pour ça que moi, je fais pas toujours cette étape-là, simplement parce que, des fois, juste les trois premières étapes, je suis déjà en train de transpirer.
Ouais,
je me dis, hey, c'est bon, j'ai pas besoin de faire monter ma température corporelle. En vrai, dans l'idéal, si je voudrais vraiment optimiser le tout, je le ferais quand même, parce que, ben, par exemple, je parlais de l'exemple. Je prenais l'exemple des burpees tout à l'heure pour faire augmenter ma température corporelle. Sur une séance de poussée, c'est intéressant aussi parce que, ben, mine de rien, le fait de remonter de ma pompe à chaque fois va aussi venir irriguer tous les muscles que je vais solliciter ensuite sur, par exemple, mon développé couché ou mes handstand push-up, etc. Donc, c'est pas aussi juste pour le côté température, c'est aussi... irrigation en fait.
C'est essayer d'être un petit peu spécifique dans redonner du mouvement. Ouais, c'est très intéressant.
Donc voilà. Mais encore une fois, je le fais pas toujours. Dans l'idéal, il faudrait que je le fasse à chaque fois. Mais des fois, j'avoue, c'est l'étape que je grille un peu.
Et une dernière chose sur monter en température que moi j'aime bien faire avec certains de mes athlètes et que je pratique sur moi-même, c'est de la pliométrie extensive. Pliométrie, c'est entre guillemets, un ressort. D'accord, t'essayes que ce soit rapide, que tu contractes ton muscle rapidement. Faut mettre de la vitesse et t'es un ressort. Pense à des sauts sur place pour les mollets. Bah, tu sautes. C'est de la pliométrie.
Comment est-ce que tu gères ça? Parce que si le mec, tu le fais sauter pendant 40-50 secondes, je pense qu'à un moment, il a les mollets en feu.
Tu le fais en pliométrie extensive, donc tu essayes de varier, et encore une fois, en donnant de la variabilité et pour chauffer le corps, tu peux varier les... Bon, là, on va prendre l'exemple des pieds, si on peut se préparer pour de la course à pied ou pour du sprint, ou pour, si on veut juste travailler un petit peu, se chauffer, monter la température corporelle. Tu peux varier l'inclinaison des pieds, sauter un petit peu dans tous les sens, l'inclinaison des pieds, comme ça, bah, les contraintes ne sont pas tout le temps les mêmes.
Tu veux dire l'orientation l'intérieur ou vers l'extérieur?
Pied en canard, pied rentré, tu peux le faire plutôt en position de fente, du poids un peu plus sur un pied ou un peu plus sur l'autre pied, les pieds bien écartés, les pieds très très serrés.
En déplacement
vers l'avant, vers l'arrière.
Sur le côté.
Je vous assure, sur le côté, tu peux le faire aussi, bon, c'est un peu plus dur, mais pas les pieds rentrés ou écartés, mais les pieds inclinés sur le côté, donc sur la tranche du pied ou sur l'intérieur du pied. Bref, plein de manières de le faire. Si tu le fais intelligemment, et comme a dit Nathan, si tu le fais pendant 50 secondes non-stop, au bout d'un moment, ça va te chauffer. Ça peut être très très dur.
Et au final, ça va être délétère pour ton entraînement parce que tu vas générer de la fatigue.
Exactement. Donc, tu peux le faire pendant longtemps, peut-être 30-40 secondes, mais à basse intensité. Au lieu de faire des sauts très très hauts, juste imaginer de faire de la corde à sauter très simplement. Et au final, bah, ça te permet de créer du mouvement, augmenter la température corporelle d'une manière, comme l'Animal Flow, assez ludique. Et de créer des adaptations, si tu fais jamais de pliométrie, qui peuvent être aussi intéressantes pour ton sport. Et j'insiste sur le mot extensive, c'est vraiment le but de bouger et de faire pas mal de sauts, pas mal de répétitions pour augmenter la température corporelle. C'est dans aucun cas dans le développement de la pliométrie.
Extensive, ça veut dire que c'est basse intensité et qu'il y a beaucoup de répétitions.
Voilà, exactement.
Voilà,
exactement.
C'est ça que ça veut dire.
Est-ce que tu pratiques des fois un peu de plio en échauffement
En échauffement non, pas vraiment, mais non. Pas... Okay. Pas dans un but de faire de la pliométrie.
Non, moi non plus.
Mais dans un objectif de monter la température corporelle, si ça peut...
Ça te fait sens ou pas?
Ça peut arriver. Ça marche.
Ok, pour moi, parfait.
Ça marche. Si ça permet d'augmenter ta température, pourquoi pas. Au final, l'important, comme on l'a dit, c'est de bouger.
Bah ouais, honnêtement, tu fais 2 minutes de vélo, 1 minute de plio, 30 secondes de burpee et tu finis par, on va dire, 1 minute d'animal flow.
Ouais.
Je pense que t'as bien chaud.
Ah bah oui.
Et si t'as fait l'articulaire avant, un peu de potentiation avant, t'es déjà bien chaud aussi. Ensuite, tu
fais qu'est-ce que je fais? Je vais venir un peu booster mon système nerveux.
Une deuxième fois du coup?
Ouais, mais cette fois-ci avec du mouvement dynamique.
Ok.
Parce qu'avant on l'a fait qu'en isométrie.
Ouais.
Donc je vais le faire avec du mouvement dynamique où je vais me focus uniquement sur le concentrique.
Ok.
Donc je prends mon exemple de aujourd'hui c'est un push day, je vais faire des handstand push-up, et ben je vais partir plat ventre, je décolle mes mains et d'un coup je vais pousser le plus fort et le plus vite possible pour faire une pompe, et je vais pousser tellement fort que je vais décoller en fait du sol.
Ok.
Ouais. Je fais pas beaucoup de reps là-dessus, je fais par exemple 3 reps comme ça. Après je vais faire la même chose sur des pike push-up.
Ok.
Donc avec les pieds surélevés et puis le corps relativement vertical, vu que je me prépare pour des handstand push-up, je me verticalise un petit peu. Donc je vais partir avec carrément la tête posée au sol. Okay. Comme ça j'ai quasiment pas de tension dans les mains, ouais, dans les bras, et puis d'un coup bah je vais pousser très fort en explosif pour monter.
Okay.
Et l'excentrique, je l'accentue pas en gros. Je veux pas me fatiguer sur l'excentrique.
Ouais, tu descends normalement sans freiner ou sans mettre de
Exactement, sans t'exposer la tête au sol. Je fais 3 reps comme ça, 3-4 reps.
Okay.
Et puis ça me permet de juste préparer mon système nerveux à bombarder.
Et d'une manière un peu plus générale, d'un point de vue tissulaire un peu plus général, pas forcément que les tissus les plus profonds, mais tous les tissus.
Ouais.
Et d'un point de vue exercice, que ce soit un peu plus spécifique. Si tu fais une séance un peu plus handstand, bah, commencer à rentrer dans les patterns.
Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Je viens essayer de mettre de la spécificité dans ce que je fais.
Ok.
Ouais, exactement.
C'est bon ?
Ouais.
T'as fini d'échauffer ?
Non, et après, okay.
Alors attends, parce que moi aussi je fais ça, et des fois je mets un peu plus l'accent sur l'excentrique justement. Okay. Excentrique, concentrique tout à l'heure, ce que a dit Nathan, c'est juste pousser, faire la phase dynamique du mouvement.
Ouais, qui raccourcit le muscle en fait.
Voilà, qui raccourcit le muscle, et excentrique c'est l'inverse, qui allonge le muscle. Sur une traction, le concentrique c'est la montée, l'excentrique c'est la descente. Sur un squat, l'excentrique c'est la descente, le concentrique c'est la montée. Bref, il y a tous les exercices, on pourrait faire ça. Mais des fois, mettre un peu l'accent sur l'excentrique pour passer longtemps, enfin, mettre un peu plus de temps sous tension, j'aime bien. Mais du coup, c'est pas dans le même but de booster le système nerveux.
Ah, ça y est, j'ai trouvé la phase que j'oubliais. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais il m'en manque une, j'ai 7 étapes. Et il m'en manque une.
Ok.
En fait, après mes CARS, donc après mon
l'articulaire, ouais.
Voilà. Je continue sur l'articulaire, je fais des CARS capsulaires.
Et c'est ce qui me semblait. Mais moi, je pensais que... Ok, ouais.
Donc, j'ai oublié de le préciser. Les CARS capsulaires... Wow, difficile à expliquer en podcast, là.
Non, en gros, des rotations articulaires contrôlées, on va faire toutes les fonctions de l'articulation. C'est ça, ouais. Et sur les racks capsulaires, on va faire les fonctions primaires qui stressent un maximum la capsule, sont donc les fonctions primaires, souvent, et qui sont rotation, en général, ouais, les rotations, sauf sur la colonne vertébrale où c'est la flexion.
Donc,
et
pour ceux qui voient la vidéo, typiquement sur l'épaule, ben, je vais d'abord venir forcer. Tu me posais la question des intensités, pareil, je vais être directement entre 70-80% d'intensité. Ouais. Donc je vais venir forcer au max sur 3 secondes en rotation externe.
Okay.
Et puis ensuite, ben, je vais faire la même chose en rotation interne. Okay. Et je vais faire 3 répétitions, comme ça.
C'est tout.
Exactement.
Parfait.
3 répétitions. Ça te prend 2 minutes pour faire les deux côtés.
Ok. Ouais, donc, c'est très rapide. Faut se dire, là, tout long. Ce qu'on vous dit, ça fait bientôt une demi-heure qu'on parle, mais ça se fait en 10-15 minutes pour le moment.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, juste pour récapituler, pour revenir où on en était, étape 1, tu fais de l'articulaire sur une amplitude globale à faible intensité. T'augmentes un petit peu l'intensité, tu travailles les fonctions les plus importantes, les fonctions primaires, donc en général les rotations.
Ouais.
En numéro 3, tu travailles sur les fins d'amplitude en fonction de ce que tu vas faire. Là,
en quand isométrie
tu...
maximale.
Voilà, isométrie maximale en fin d'amplitude, ce qui te permet de booster le système au niveau des tissus les plus profonds.
Ouais.
Ensuite, tu passes sur donner du mouvement, réchauffer, augmenter la température corporelle.
Alors d'abord, isométrie dynamique zonale.
Isométrie dynamique zonale, effectivement.
Voilà, c'est ça.
T'as bien fait de le dire. Isométrie dynamique zonale. Ensuite...
J'augmente ma température corporelle.
J'augmente la température corporelle en bougeant dans tous les sens. Et ensuite, on avait une autre, c'était le concentrique pour
Booster le système,
booster le système nerveux d'un point de vue général.
Ouais,
spécifique à l'exercice.
D'un point de vue spécifique à l'exercice. Et puis mettre du dynamique, parce qu'au final, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était assez statique, simple. Voilà, c'est ça.
Je vois totalement ce que tu veux dire.
Et ensuite, je termine. Avec de l'isométrie overcoming,
okay,
dans le pattern que j'entraîne. Donc,
Différentes amplitudes ou pas ?
Alors, ça va dépendre des mouvements. Par exemple, sur les tractions, ça va être en bas et en haut. Parce que c'est les deux amplitudes où j'ai des difficultés.
Ouais.
Si on prend la poussée, plutôt d'handstand push-up, parce que moi, c'est ce que j'entraîne beaucoup. Mais je ferai pareil sur un bench press. Je ferai uniquement en bas.
Et qu'en bas, pas en haut?
Non, je ferai pas en haut parce que ouais. Je ferai uniquement l'angle faible. Sur un squat, pareil, je le ferai que en bas. Sur un deadlift, pareil, je le ferai que en bas. Bref, voilà. Dans les angles faibles.
Et là, à ce niveau-là, tu vas vraiment à bloc?
Là, ouais.
Ok.
Ouais, parce que encore une fois, c'est 5 secondes à 100%.
Ok.
Donc ça va vite. Et encore une fois, c'est potentiation dans le pattern spécifique que je vais entraîner. Pour les handstand push-up, ce que je fais, c'est que je me mets contre un mur. Pour que ça reste un pattern de poussée verticale, j'incline mon buste, tu vois, pour qu'il soit vraiment à l'horizontale. Okay. Et je viens pousser avec mes bras dans le mur le plus fort possible.
Ok.
Voilà. Et là, je fais mon overcoming. Une rep de 5 secondes. Et là, je suis gonflé à bloc. Et l'idée, quand je fais ça, c'est que derrière, tu peux démarrer ta montée en charge. Ouais, parce que... On pourrait dire que c'est une autre étape.
L'étape
finale, c'est tu vas sur ton pattern de mouvement. Donc,
ton exercice donc, que tu vas faire. Ouais.
Donc, tu t'entraînes aujourd'hui en développé couché. Je vais direct sur mon développé couché. Avant de démarrer sur tes séries de travail, fais quand même une montée en charge.
Ouais.
Et le fait d'avoir fait toutes ces étapes d'échauffement me permet, moi personnellement, de démarrer. Des fois, je démarre direct.
Ouais, bon.
Des fois, c'est pas bien.
Ça dépend
du temps que j'ai, ouais. Mais des fois, la réalité du terrain fait que le temps te rattrape. Donc, des fois, je démarre direct, j'avoue. Mais
le fait de faire toutes ces étapes, quand même, ça te permet que la montée en charge, elle soit moins longue.
Tu peux commencer directement à 80%. 80% de ton max.
Tu peux le faire fort quand même, ouais, c'est sûr.
Tu peux commencer quasiment direct, voire direct. Je recommanderais pas de le faire direct, ouais. Ok Ou alors, tu es très expérimenté et tu es capable de le faire. Et encore, même là, en vrai, c'est pas très intelligent. Mais ouais. Des fois, la réalité fait qu'on fait pas toujours ce qui est optimal. Mais ouais, si tu as suivi ces étapes-là, tu peux aller très vite dans le dur. Dans le 80-85% max, je dirais. Ça, c'est mon échauffement. Après, ça dépend. Ça, on va dire, c'est pour le côté un peu prépa, tu vois.
Ouais.
Si, par exemple... On va sur mon sport, la slackline.
Oui.
Là, je fais uniquement l'articulaire. Un peu tout le corps, parce que mine de rien, je vais utiliser un peu tout. Et puis après, je monte directement sur la slack.
Ouais.
Je monte directement sur la sangle. J'aime bien faire un premier passage de 3-5 minutes, non-stop, mais ultra chill. Je vais la phase de mouvement en fait. Ouais, en fait
tu l'as fait dans la spécificité.
En fait exactement, je la fais directement dans la spécificité et puis je viens monter, en fait je viens progressivement monter en gamme dans la difficulté des figures que je vais faire parce que en fait je viens échauffer mon système nerveux, ma coordination. Donc ça va être vraiment des figures très basiques, très simples que je maîtrise. Et ouais, un salto avant, un salto arrière, c'est des figures simples. Non, ça dépend le niveau, mais voilà. Et puis à l'issue de ces 5 minutes, normalement, t'es bien chaud, t'es même bien essoufflé. Et puis après, je vais encore faire 2-3 passages où je vais un peu monter en gamme. Mais après, j'essaie de démarrer assez rapidement ce qui va me coûter. Et pas forcément d'un point de vue énergétique, des fois, ça peut être juste d'un point de vue psychologique. Ouais. Parce qu'il y a certaines figures... Ouais, qui te font peur.
Là, c'est quand même un sport où la technicité et le psycho est...
Ouais, puis c'est un...
Il est très, très relié.
Je sais pas si on peut qualifier ça d'un sport extrême. En tout cas, c'est un sport à risque.
Ouais.
C'est un sport à risque et forcément, t'as la dimension mentale qui fait que, si tu te rates, en fait, tu risques de te blesser. Et si tu te blesses, ça impacte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire contre la blessure, tu vois, mais pour autant, on kiffe pas forcément.
Pas trop se blesser, non, ça te retarde dans ton évolution.
C'est pas. Tu peux évoluer sur d'autres choses après, tu vois, ça peut être une opportunité, mais bref, en tout cas, ouais, j'essaye de mettre ce qui va vite me taxer dès le début. Parce que tu sais, il y a ce fameux 80%, 20%, ouais. Là. Tu vois, en prépa, on dit que ton premier exercice.
C'est le plus important.
C'est celui où, en gros, tu vas mettre l'accent sur ton objectif principal. Exactement. Et il va te coûter 80% de ton énergie. Et après, ben, pour tout le reste, il te reste 20% d'énergie.
Ouais.
Ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est pour... Et pourtant, physiquement, je ne suis pas forcément épuisé, mais au niveau des ressources attentionnelles, cognitives, le stress, l'appréhension m'a tellement coûté que derrière, il faut vraiment que je redescende si je ne veux pas aller me blesser. Et du coup, je m'entraîne vraiment pas très longtemps.
Ouais.
Et encore plus là en hiver, parce que ouais, c'est un peu ghetto, il n'y a pas de gymnase chauffé pour s'entraîner. Hein. Tu t'entraînes dehors. Il fait froid quand tu tombes.
Ouais, il faut que ce soit rapide quand même.
Voilà, donc moi là, je m'entraîne une heure et demie et puis ouais. pas plus quoi.
Bah, moi, tu vois, c'est super intéressant là ce que tu viens de dire, de dissocier, enfin, de séparer ton échauffement de la préparation physique et ton échauffement de ton sport spécifique.
Ouais.
Parce que quand je vais faire de la préparation physique, je m'échauffe quasiment de la même manière. J'enlève une ou deux étapes, l'isométrie. Dans une zone, je ne la fais pas tout le temps. Et la montée en charge, pareil, je ne la fais pas tout le temps non plus. Enfin, je vais très, très vite, quoi.
Et tu fais comment, du coup, après, dans ton
contexte ? Et bah, justement, dans la préparation physique, je trouve qu'on se rejoint de ouf. C'est super bien. Et sur le contexte du sport en question, et donc qui est pour moi soit le trail, soit le vélo, soit le running sur route, sport d'endurance, bah en fait ça se rejoint aussi, c'est-à-dire que t'enlèves beaucoup d'étapes, parce qu'on va pas se mentir que quand t'es parti pour une séance de running de 1h30, s'il faut que tu passes 15 minutes ou 20 minutes à t'échauffer au niveau articulaire alors que t'as ton temps qui est compté
et qu'après tu fais une sortie de 3h,
voilà, tu vois ce que je veux dire.
Ouais,
faut quand même essayer d'économiser du temps là-dessus. Donc moi ce que j'aime bien faire, et je suis vraiment pas un exemple, je le fais vraiment vraiment pas tout le temps. Mais quand je le fais, ça fonctionne très très bien, je le fais tout le temps avant des courses. De l'articulaire et de la potentiation articulaire pour un sport outdoor, c'est juste incroyable.
Ouais.
Personne n'en fait, mais ça te permet de faire le tour de toute l'amplitude à laquelle tu as accès, alors que pendant les 3 prochaines heures, tu vas rester sur une amplitude qui est ultra restreinte.
Ouais, de toute façon, je vois pas de sport où ce serait pas intéressant. Hein.
Oui, mais...
Il y a pas de sport qui engage pas les articulations.
De fou, et puis aussi, il faut se dire ce qui est, il y a des moments où quand tu t'échauffes en slackline, toi, tu dois être sûrement sur le lieu où tu fais la slackline, et moi, des fois, tu prends la voiture, tu vas à un endroit, donc tu t'échauffes à un endroit où t'as pas de matériel.
Ouais, c'est vrai.
Et le truc que tu peux faire, il y en a pas beaucoup, c'est de l'articulaire, parce qu'il y a pas besoin de matériel, de la potentiation articulaire avec des racks capsulaires ou de l'isométrie dans les fins d'amplitude.
Pas besoin de matériel.
Pas besoin de matériel. Et après, monter en température corporelle grâce au mouvement. Encore une fois, pas besoin de matériel. Donc non. Au final, ton échauffement qui dure peut-être 15, 20, 25 minutes en général, et bah, tu le réduis en 5, 10, voire 15 minutes et tu peux faire quelque chose de très, 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 très cohérent, seulement avec de l'articulaire. Donc en fait, c'est comme toi. Et puis après, bah, évidemment, si tu as des intervalles, tu pars pas à bloc sur tes intervalles tout de suite. Tu passes 5, 10, 15 minutes à continuer à faire l'augmentation de la température corporelle à basse intensité.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis après, tu peux partir sur tes intervalles, parce que même si tu pars à froid sans faire tout l'échauffement articulaire, si tu as déjà observé la cinétique de ta fréquence cardiaque, comment ta fréquence cardiaque répond à l'entraînement, eh ben, y a tout le temps 10-15 minutes, même si tu cours à très 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 basse intensité, elle dérive progressivement.
Tu veux dire, elle monte ?
Ouais, elle monte progressivement. Tout simplement parce qu'en fait, c'est juste que ton corps est en train de s'échauffer.
Ouais, c'est ça, ouais.
Tu peux faire des séances de 1 heure en endurance fondamentale à basse intensité. Et bah, peut-être que les 45 dernières minutes de la séance, la fréquence cardiaque sera super stable. Et les 15 premières, la fréquence cardiaque, elle monte tout simplement parce que ton corps est en train de s'échauffer. Donc en fait, je trouve ça super intéressant que l'échauffement qu'on fait en préparation physique, on fait quasiment pareil. Et l'échauffement qu'on fait spécifiquement par rapport à une séance spécifique de notre sport, et ben on fait quasiment pareil, juste c'est la dernière phase de montée en température et la phase qui va être un peu plus spécifique à l'activité qu'on va pratiquer, qui diffère en fait, mais qui est au final très ressemblante.
C'est ça. Et simplement, est-ce que tu as une idée de la fréquence cardiaque à laquelle tu devrais être à la fin d'un échauffement ou pas ? Parce que moi, de mémoire, je sais qu'on m'avait sorti un truc, mais à mon avis, c'est basé sur rien. Mais on me disait qu'il fallait que tu commences ton effort à 140 BPM.
Non, 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 alors mais, ça, je peux t'assurer que c'est faux. Parce que voilà. c'est comme dire fais ta zone 2 à 130 BPM tout le temps, tu vois.
Ouais, mais voilà.
Toi ou moi, c'est pas pareil.
Puis on sait que la fréquence cardiaque, en plus de ça, elle est influencée par plein de paramètres.
Ah oui, oui, oui.
Genre, si t'es stressé, si t'as mal dormi, si t'es pas suffisamment hydraté.
Ouais, le chaud, le froid.
Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément ultra intéressant, c'est pas forcément pertinent.
Mais moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de fréquence cardiaque à respecter, mais il faut réussir à trouver le juste, en fait. C'est-à-dire, si tu t'échauffes, mais qu'en fait, ton échauffement, tu te crames.
Ouais, c'est pas bon.
Bah, c'est pas bon. Si genre tu t'échauffes sur des intervalles à très haute intensité et que tu fais ton échauffement à plus haute intensité et plus longtemps que tes intervalles, bah peut-être que là t'es un peu dans le faux. Mais si tu fais que de la zone 2, que de l'endurance fondamentale, que de la basse intensité et puis que derrière tu pars à très 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 haute intensité, bah peut-être que t'es pas dans le juste non plus.
Ouais, c'est vrai. Hein.
Et ça, c'est assez dur à déterminer. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand tu pars sur des intervalles, que ce soit à très haute intensité ou très longtemps, c'est faire une partie articulaire, une partie où tu fais ton endurance fondamentale à basse intensité pendant 10-15 minutes, une partie où tu augmentes progressivement le rythme, tu relâches total, tu pars sur des petits intervalles à allure spécifique de ta séance, et ensuite tu pars sur tes intervalles.
Ok.
Voilà, j'aime bien faire ça.
Intéressant.
Juste avant de finir le podcast, j'ai une seule question, j'aimerais vraiment avoir ton avis, parce que j'ai vu ça, je sais plus qui c'est qui a mis ça, j'arrive pas à savoir si c'est Fred Kos ou Kay Swiss, j'ai plus aucune idée. Et en gros, selon toi, quel serait l'intérêt, vraiment c'est selon toi parce que personne n'a les mêmes avis, mais quel serait l'intérêt de partir à froid sur une séance?
Oh là là, mais...
Ça... mais très bref, on ça pourra faire un sujet de podcast là-dessus, mais...
Quel serait l'intérêt?
Ouais, vraiment, quel serait l'intérêt? Parce que, ah oui, voilà.
Bah, gagner du temps.
Ok, donc zéro intérêt niveau corporel, quoi. C'est vraiment juste d'un point de vue...
Honnêtement, je
sais. Organisation.
Honnêtement, bah des fois, ouais, hein, parce que...
Non, mais parce que, tu sais, enfin, l'exemple qui revient souvent, c'est ouais, vous échauffez à la séance, et sauf que quand mon bus, il part et que moi, je tape mon sprint, bah je viens de sortir de mon lit, je suis pas chaud. Ouais, ok, mais
ouais,
tu vois ce que je veux dire.
Ah, tu vois, ça me fait penser à The Motion Guy, qui dit, ben, je sais plus, il a fait un post pour dire, en gros, quels indices tu as... pour objectiver ta progression, et il dit bah maintenant t'es capable de faire tel exercice sans avoir besoin de t'échauffer.
Ouais, ah c'est pas mal ça.
Et je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où tu me demandes de faire une handstand push-up là, maintenant je la fais.
Non, la dernière fois t'as échoué.
J'ai pas besoin de m'échauffer, ça va pas me générer des douleurs,
ouais.
Je vais être capable de la faire, tout ça.
Alors donc, peut-être passer un moment c'était très très dur.
Ouais, exactement. Il y a un moment où sans échauffement, c'était impossible. Ouais. Il fallait d'abord que je travaille un peu mon équilibre en handstand pour être un peu en alerte de mon corps avant de faire une handstand push-up. Maintenant, okay. Tu me dis, fais-en une. J'en fais une.
Ouais.
Donc, moi, je trouve que c'est un bon indicateur, ça, déjà, de progression.
Okay.
Et puis, pour revenir sur ta
question... J'avais jamais pensé.
Et puis, pour revenir sur ta question, je pense que ça dépend de ce que t'entraînes,
ouais,
et la difficulté de ce que tu vas faire. Si... Imagine, on parle sur un mouvement plus simple que du squat, que des handstand push-up.
Ah, okay.
Bah justement, l'exemple du squat, c'est un mouvement, je pense, plus simple. Ben, tu me demandes d'aller faire une barre à 80 à froid, ben, je vais te dire oui.
Ouais.
Par contre, tu vas me dire une barre à 100, là, je vais te dire bah, peut-être pas, parce que je pense que ça va être plus délétère qu'autre chose.
Non, c'était une question que je me posais. À vrai dire, j'ai pas trop d'avis parce que j'ai jamais testé des périodes de ma vie où je m'entraîne sans entraînement. Mais voilà, ça me revient. En gros, c'est Fred Kos, tu sais, ouais, il s'entraîne sur les Dini Stone là en ce moment.
Ouais, il a dit à froid.
Et il le fait souvent à froid.
Ouais.
Et je me suis dit, quel serait l'intérêt?
Ben, moi, je pense que l'intérêt, ça peut être, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu sais que maintenant ta baseline elle est à tel niveau.
Ouais.
Ton niveau de base il est à tel niveau, ouais, parce que t'es capable de le faire à froid,
ouais.
Donc si t'es capable de le faire à froid, ça veut dire qu'une fois échauffé tu peux aller plus haut. Donc je dirais que ça pourrait être ça. C'est que c'est maintenir peut-être ton niveau de base, établir une nouvelle baseline. Et puis après ben, de toute façon l'échauffement a toujours un intérêt.
Oui, toujours. Si t'as le temps, j'ai envie de te dire, si t'as le temps, fais-le. C'est mieux que de pas le faire.
Voilà, exactement. Vraiment. Et puis, parce que sinon, tout ce que tu vas faire au début de ta séance, tu vas le faire à des intensités qui sont sous-maximales, mmh, et en fait, qui vont juste avoir un effet d'échauffement, justement.
Ouais,
et
ça,
donc,
c'est bien
et donc
dit,
en
ça.
Fait, tout ce que tu auras fait bah, va générer aucune adaptation, parce qu'il y aura peut-être le temps sous tension, le volume, mais il n'y aura pas l'intensité. Donc, ouais, au final, bah, tu as un peu travaillé dans le vent.
Bah, des fois, ça arrive des personnes qui font une série à un tel poids, qui font la deuxième série au même poids et qui disent c'est plus simple. Enfin, ouais. Ça paraît plus simple. Bah, ça veut sûrement dire que tu t'es mal échauffé. Ouais. Ça veut sûrement dire qu'en fait, ta première série était ton échauffement.
Ça, on l'a fait, on l'a constaté sur des tests de sauts verticaux. Tu fais ton échauffement, tu fais un premier saut au poids de corps, et puis deuxième saut, tu le fais avec un petit peu de charge, et puis tu sautes plus haut. Bah, là, tu peux être sûr que soit ta mesure, elle est pourrie, et si elle n'est pas pourrie, bah, tu peux être quasiment sûr que c'est un effet d'échauffement. En fait, bah, ton premier saut, il t'a servi de...
T'étais mal échauffé et ouais, ton premier saut t'a échauffé.
Exactement.
Okay.
C'est pour ça qu'il faut s'échauffer pour recruter ses tissus profonds et superficiels.
Voilà, très très bien
augmenter,
dit ça.
Augmenter sa température corporelle,
ouais.
Mais aussi s'échauffer dans le pattern spécifique. Voilà pourquoi notre dernière étape, c'est l'isométrie overcoming dans le... pattern de mouvement faible, ouais. Spécifique, et puis après la montée en charge.
Bah là, franchement, t'as super bien résumé. Hein. Mec, on peut juste s'arrêter là. Non, franchement, c'est très très bien. On a parlé un peu plus des entraînements, des échauffements pour la préparation physique. On pourra pourquoi pas refaire une partie spécifique des échauffements pour les sports outdoor. Mais ouais, voilà, je pense qu'on a bien résumé.
Ouais.
Merci de nous avoir écoutés encore une fois. On espère que ça t'aura guidé dans ton échauffement. C'est possible que. Si tous les termes qu'on a évoqués ne te parlent pas, bah, c'est peut-être possible que tu t'échauffes pas correctement.
Et ça tombe bien parce que comme ça, tu vas devoir laisser un commentaire pour poser une question.
Voilà, exactement. Et aussi, si tu ne sais pas quoi faire à l'échauffement, vraiment, c'est pas normal. Donc, n'hésite pas à aller te renseigner auprès d'un préparateur physique pour qu'il te prescrive des échauffements et comme pourquoi nous. Pas être suivi par un préparateur physique pour qu'il crée tes échauffements. Voilà, laisse un petit 5 étoiles. Partage, ça donne toujours de la force. Et si tu as des idées de podcast, on prend avec grand plaisir.
Absolument. À bientôt dans le Processus Talk.
Et suis-nous sur les réseaux sociaux. Ciao.
Ciao.